Voilà, et bien bonjour à tous, c'est les redifs de Dans les pas du docteur Francus, redifs de l'été, il fait beau, vous allez pouvoir vous balader, mais quand vous rentrez, de temps en temps, eh ben, si vous ne savez pas quoi faire, branchez-vous sur votre radio et écoutez ces rediffusions de toutes ces émissions qui ont eu lieu en 2018 et début 2019. Poil à l'œuf. Moi, je deviens de plus en plus mauvais, moi. Voilà, je rappelle donc que cette émission est diffusée sur plusieurs radios et que vous pouvez l'entendre à des horaires différents, bien sûr. Et que, ben voilà, on parle un petit peu de pas mal de choses, on passe de la bonne musique, des années 60 à 80, je veux pas dire que la musique actuelle est mauvaise, mais enfin moi je l'apprécie pas, je préfère celle que j'aime et je vous passe celle que j'aime, ce qui me semble complètement logique. Voilà, d'habitude, cette émission est faite avec quatre animateurs, votre moi-même, Sam, Sacha pour le cinéma, Serge pour toute la rubrique biodynamique, et Eric qui est notre raconteur, conteur, historien, enfin il fait plein de choses, il est super et on l'aime beaucoup, et voilà. Donc vous allez les entendre au fur et à mesure des émissions, bien sûr, puisque, comme je vous le répète, ce sont des rediffusions. Cette musique que vous entendez actuellement s'appelle Maple Leaf Rag. C'est un rag de Monsieur Scott Joplin qui a fait sa fortune. Faut dire que c'est quand même pas mal comme musique, hein. Je sais pas si vous avez essayé de jouer du rag au piano, mais c'est pas évident, hein. Diffraction des deux, vraiment, là, il y a un contretemps dans chaque main. Oulalalala. Faut savoir faire. Voilà, donc c'est parti avec la première chanteuse que nous invitons dans notre émission. Il s'agit, effectivement, elle était invitée dans une autre émission avec Philippe Bouvard. Il s'agit de Madame Marie-Paul Bell.
Chanteuse qui est très peu connue, en tout cas au moment où elle commence, elle est très peu connue. Je dirais que maintenant ça a un peu changé. C'est en public. C'est une dame qui a fait des chansons sur des paroles de Françoise Marley Joris, et vous allez tout de suite la reconnaître, Marie-Paul Bell.
Je vous en prie, maître, mettez-vous au piano. Ça, c'est du live.
Oui, j'ai évidemment tout piqué à Sébastien. Hein.
Lorsque je suis arrivé dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Tous ensemble. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras, je ne suis pas cinéphile, c'est débile, je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grief. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe, je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, je ne suis pas travesti, ça me nuit, je ne suis pas masochiste, ça existe, pour réussir mon destin, je vais voir le médecin, je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, je ne suis pas hystérique, ça se complique, oh dit le psychanalyste, que c'est triste, je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Me dit le docteur en se rhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe, vous avez une obsession. Non, là, il n'y en a que trois qui sont obsédés. Je sais qu'il y en a plusieurs, surtout le samedi soir. Alors, on recommence. Vous avez une obsession. Ben voilà, voyez. Depuis, je suis à la mode. Je me rôde dans les lits de Saint-Germain. C'est divin, c'est divin. Je fais partie de l'élite. Ça va vite, et je me donne avec joie. Tout en faisant du yoga, je vois les films d'épouvante. Je m'en vante, je m'en vante. On s'est rentré pour le bain du voisin, me sachant original. Je cavale, j'assume ma libido. Je vais draguer en vélo. Maintenant, je suis parisienne. Je me surmène, et je connais la détresse et le cafard et le stress. Enfin à l'écologie, je m'initie et loin de la pollution. Je vais tendre mes moutons et loin de la pollution. Je vais tendre mes moutons et loin de la pollution. Je vais tendre mes moutons,
Et voilà. Du Marie-Paul Bell tout craché. Paroles de Françoise Malé-Joris, musique de Marie-Paul Bell. Bon, c'est bon, quoi. Hein. Il n'y a pas à tordre. Hein. Il y a quand même des sacrés bons chanteurs et des sacrés bonnes chanteuses en France. Hein.
Cette version est vraiment intéressante.
Oui, c'est vrai que là, elle appuie un peu sur tout et tout. Et donc, maintenant, elle drague en vélo. Donc, je ne sais pas si c'est une solution. Parmi vous, qu'est-ce qui drague en vélo, là?
Les écolos, j'imagine.
C'est possible, à savoir. Très bien. Alors, en parlant d'écologie, ça tombe bien, on va parler des petits arbres. Figure-toi que j'ai rencontré un type, toujours sur le marché de Vernou, qui vend des petits arbres. Des arbres, mais qui sont totalement adaptés au biotope ici. Et c'est vrai que c'est pas évident, on peut pas faire pousser n'importe quoi. Bon, évidemment, il y a des châtaigniers, on est d'accord. Mais il y a des tas d'autres arbres. Il
va nous expliquer. Non, pour faire pousser un cactus ici, ça doit être difficile.
Ça risque d'être un peu difficile. Alors, on va écouter ce qu'il nous raconte, ce brave homme.
Voilà, je suis toujours en train de me balader et je descends la rue, qui n'est plus la rue principale, qui est une autre rue. Et là, je vois un stand très curieux. Qu'est-ce que c'est que ce stand? Qu'est-ce qu'il vend, le monsieur? Bonjour, monsieur, vous vendez quoi?
Je vends des jeunes arbres, des plants de pommiers et de poiriers, de variétés locales, anciennes et de variétés plus traditionnelles.
Ah oui, c'est intéressant, c'est la première fois que je vois ça.
Voilà, je suis là. Voilà, je suis le seul dans le coin et voilà, je propose beaucoup d'arbres, une vingtaine de variétés de pommes, une dizaine de variétés de poiriers, de variétés locales.
Vous disiez des variétés assez plutôt anciennes en fait.
Pas seulement, mais pas mal de variétés anciennes, adaptées au terroir du Nord Ardèche.
Oui, parce que il fait pas toujours chaud, hein.
Ben, il fait pas toujours chaud, des fois il fait chaud, hein, voilà, mais c'est tout des arbres qu'on cultive chez nous et qui sont adaptés à notre terroir.
Alors, une question très très bête, puisque je suis pas du tout du métier. En fait, une fois que l'arbrisseau, la pousse, là, je sais pas comment on peut appeler ça, est planté, combien de temps avant qu'on récolte quelque chose?
Alors, on est sur des petits arbustes, on dit greffés sur franc, donc qui sont des racines un petit peu sauvages entre guillemets, mais plutôt rustiques et résistantes. Par contre, il faut pas être pressé. On dit 4 à 5 ans avant d'avoir les premiers fruits. Voilà, faut pas être pressé avec les petits arbres.
Ben c'est une bonne chose en fait aussi. Et donc voilà, donc tout le monde peut venir ici, vous acheter des plantes. Vous êtes de quel coin exactement?
Je suis sur la commune de Saint-Barthélemy-Grozon, à une quinzaine de kilomètres d'ici.
Voilà. Ben grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie.
Merci.
Au revoir.
Voilà, merci monsieur, merci pour tous ces petits arbres. C'est intéressant. Hein, moi j'aime bien. Je trouve ça c'est assez extraordinaire finalement de replanter.
Voilà, oui, c'est vrai que c'est bonnard, hein, et Serge, qui n'était pas là, bien sûr, dans cette émission, aurait été tellement content de pouvoir entendre cette interview. Voilà, bon, c'est vrai que c'est bonnard, hein, comme on dit chez nous. Et puis, dans le studio des stores, eh bien, il y a aussi notre chorale qui va vous chanter, vous interpréter son hymne, que vous allez reconnaître tout de suite, d'ailleurs.
Depuis le début juin, l'émission du Mazen, nous avons décidé de rendre hommage, comme je vous l'ai dit à l'époque, à Jacques Martin en chantant Mademoiselle Angèle. Et donc, nous retrouvons ce morceau de bravoure. Je pense qu'il n'y a pas d'autre définition que d'arriver à dire ce morceau de bravoure en ce qui concerne cette chanson. Avec la bande-son de Mademoiselle Angèle. Allez, accrochez-vous.
Frappe au numéro 1, je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté.
Ça va beaucoup mieux.
Attention. Frappe au numéro 2, je demande mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier, allez voir à côté.
Peut-être parce qu'on va pas le retour pour penser qu'on fait mieux.
Ouais. Je frappe au numéro 3, je demande mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier, allez voir à côté.
Quand même la qualité musicale, c'est...
Ah oui, c'est extraordinaire.
C'est, c'est lui recherché. Hein.
Voilà donc mademoiselle Angèle, mademoiselle Angèle plutôt, faut le dire à la maître de chez nous, mademoiselle Angèle, la chanson de notre émission. Et puis on se retrouve maintenant toujours à Vernoux, du reste avec monsieur Jean-Pierre Porte qui a une philosophie bien à lui. Voilà Jean-Pierre Porte. C'est parti, monsieur Porte.
Eh ben, on va retrouver notre ami Jean-Pierre. Notre ami Jean-Pierre Porte. Alors, c'est vrai que c'est costaud, hein, ce qu'il dit, hein.
Il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit.
Ah, moi, j'aime bien, hein.
Beaucoup de vérité, dans ce qu'il annonce.
On prend avec un certain recul des fois, mais
ouais. Et on le retrouve, je repars sur les marchés que tu as visités avec ces jeunes. Une tranche d'âge d'à peu près de 25-30 ans qui sont pas forcément de Vernoux, et ça n'a aucune importance, mais qui ont des idées un petit peu similaires pour essayer d'avancer, de sauver, entre guillemets, la planète, de faire un petit peu comme le colibri, mettre sa petite goutte d'eau.
Ouais, c'est ça.
Mais de toute manière, c'est dans les actions personnelles, surtout que ça pourra marcher, hein. Voilà.
Ah oui,
c'est évident. Et puis, il y a fait... Puis, comme il dit, quoi, hein, c'est pas en arrêtant de manger le lundi de la viande que ça va tout changer, hein, c'est comment on en mange.
Oui, c'est
non,
ça.
Mais voilà, mais si tu te mets à manger des légumes, mais que c'est des légumes qui sont noirs aux OGM, alors effectivement, tu vas peut-être faire moins de pets de vaches qui vont balancer du méthane, effectivement, mais alors combien de déchets tu vas laisser, puis combien de sol tu vas pourrir, enfin voilà.
On retrouve Jean-Pierre Porte.
C'est le système, les pubs, ces pubs, elles te prennent tes sous, elles te manquent. Ben oui, bon, le mari n'est pas consentant, la femme est consentante. Oh, il nous faudrait ci, il nous faudrait ça, ou vice-versa. Ben oui, mais c'est plutôt qu'il n'y a plus de l'argent liquide. Hein. Et puis, c'est la carte ou le chèque. Le chèque n'existera plus non plus, c'est la carte. Mais on ne sait pas s'il reste 100 francs dans le porte-monnaie. Et on le mange quand même. Et c'est là où c'est grave. Parce qu'on est inconscient de la valeur qu'on va bouffer. On va bouffer plus que ce qu'on a. Et comme j'avais entendu dire, il ne fallait pas s'étendre plus qu'on a du lit. Hein. Puis voilà. Non, mais, oula, ça va être dur. Hein. Moi, je dis que ça sera dur.
Alors revenons à Vernoux, en fait. Donc vous me dites que ça a beaucoup changé par rapport à votre jeunesse. Que... Voilà. Mais il y a quand même un problème économique à Vernoux. Les gens ont moins de travail qu'avant. Pourquoi ?
Et pourquoi ? Parce que l'être humain est devenu trop mobile. La voiture, elle a transformé l'être humain. Dans le temps, c'était local. Ils travaillaient localement. Mais aujourd'hui, on va travailler, on trouve un boulot, gna, à Valence, ou à Privas, ou d'ici. Mais oui, mais tout ça... Ça s'enchaîne pour une pollution aussi.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller travailler plus loin, donc...
Ben oui, mais pourquoi ?
Donc la voiture...
Mais pourquoi ?
Mais parce qu'il n'y a pas de travail ici.
Mais... Non,
excusez-moi, je fais l'avocat du diable, mais...
Non, Il y aurait du boulot. Mais le boulot intéressant, on le laisse. On va acheter la panière, la matière première, quand elle vient d'extérieur. Elle vient même pas de France. Et pourquoi pas la produire dans des bleds comme ça? Mais oui. Mais
quelle matière première ici on peut produire?
Mais on peut tout produire. À part les orangers peut-être, les oliviers. Mais tu peux tout produire. Et on produit rien. Les patates, elles viennent du Nord. Pourquoi une réunion comme Vernon, on ne ferait pas des patates? Je prends un exemple comme ça.
Sur le marché, j'ai vu un monsieur qui vend des arbrisseaux qu'on peut replanter, des arbrisseaux de pommiers, oui. De poiriers et tout. Oui. Moi, j'ai trouvé ça. Et il a dit, ce sont des arbrisseaux oui. Qui sont des arbres qui peuvent tout à fait vivre.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
Donc ce type-là a raison de faire ça.
Mais bien sûr. Là, le système, là, en plan... On revient au châtaignier. Le châtaignier, il date de... Oh, les plus jeunes, ils ont 100 ans, 150 ans, 200 ans. Pourquoi? Ça a été oublié. Et aujourd'hui, les châtaigniers, dans 5 ans, il n'y aura plus de châtaigne en Ardèche. 5 ou 6 ans. Avec la maladie, le champ et l'endocia. Dans 5 ans ou 6 ans, il y aura une attitude un peu à 700, 750, parce que nos températures augmentent. Et puis, voilà. Et pourquoi? Pourquoi c'est tout perdu? Parce que tout ce qui en vivait, le châtaignier, c'était notre pain.
Ah oui, oui.
C'était notre pain. Et pourquoi on l'a oublié? On oublie tout, et il n'y a plus un châtaignier qui s'est planté. Ah, il y a des châtaigniers, on plante des châtaigniers, des plantes de châtaigniers qu'on achète d'Italien ou je ne sais pas quoi. Mais qui ne sont pas adaptés au pays.
Bien sûr.
Et ça, ils dégénèrent de suite. Ça ne se peut pas. Il faut vivre avec la nature. Et vivre avec la nature, c'est qu'on l'a oublié. On l'a oublié. Et c'est grave. Hein.
Est-ce qu'il y aurait la possibilité, ou est-ce qu'il y a déjà à Vernou une entreprise de transformation de châtaigne en crème de châtaigne?
Non.
Parce que crème de châtaigne, pour l'apéritif, pour les boissons, et puis la confiture de châtaigne, enfin je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est délicieux. Moi j'en ai mangé hier soir.
Mais bien sûr, moi j'ai pris l'exemple comme ça, parce que on dit un arbre, oh mais c'est des milliers d'années qu'on a, des milliards d'années. Non, un arbre, il vieillit comme un être humain. Et pourquoi tomber un arbre lorsqu'il vit? Moi, je suis une protection de 50 hectares de propriété, là. Et tomber un arbre qui vit, avant qu'il vit et qu'il ne te gêne pas, pourquoi le tomber?
Ça fait mal, hein.
Pourquoi le tomber? Parce que il faut savoir que le chêne, c'est lui qui donne le plus d'oxygène. Et plus il est vieux, plus il donne de l'oxygène. Et pourquoi le tomber? Ah bon? C'est tomber un être humain, ça aussi.
On oublie la photosynthèse. Hein. Vous avez tout à fait raison.
Ah, oui,
c'est-à-dire
oui,
qu'en fait, s'il n'y a pas les arbres, on ne respire plus. Hein.
Ah mais oui.
Hein, je suis d'accord.
Oh non, mais il y a... Oula. Moi, je dis que... on revient aux variétés de fruits. La variété des fruits, mon père greffé, est quasiment dans les communes ou dans les quartiers... Il y avait toujours 3 ou 4 greffeurs.
Parce qu'il y a eu beaucoup d'activités autour des fruitiers ici.
Mais oui, mais parce que il y avait pas la possibilité, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait même pas l'électricité.
Il y avait le tram.
Oui, et après il a été supprimé. Bon.
Ouais.
Mais je veux dire par là.
Mais pourquoi il a été supprimé en fait?
Ben parce que c'était après.
C'était pas rentable en fait.
Ben non. Il n'a pas été assisté. Aujourd'hui il y aurait des subventions.
Bien sûr.
Mais c'est ces subventions qu'ils ont foutu une poison. Ah, mais vous pouvez y aller, hein. Comme tu veux. Ouais. Et j'en reviens à les petits vieux, là. Mais oui, ils savaient greffer un pommier, un pêcher, gna 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 gna. Et ils n'avaient pas besoin de porte-monnaie. Ils se produisaient tout. Et le surplus, il était à côté. On donnait aux voisins, on donnait d'ici, on donnait de là. Et oui, voilà, là, mais c'est tout perdu, ça. Aujourd'hui, non, c'est trop individuel. C'est le mot individuel.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un petit peu Vernou et sa région? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
Oh non, transmettre, bonjour. Si, je pense à la génération qui va arriver, là, à notre génération, qu'ils ont 10 ou 15 ans, avec l'évolution, peut-être, ils auront mieux des atouts que nous. Ils seront mieux nature, quand même, parce que aujourd'hui, la nature, on l'a oubliée.
On a passé à
enfin, les jeunes que je vois au marché, c'est des jeunes, hein, ils ont quoi, entre 20 et 30 ans et tout. C'est tous des gens qui ont abandonné la vie de la ville pour venir cultiver de façon raisonnée, si vous voulez. Et ceux-là, on peut leur faire confiance.
Mais bien sûr.
Ils vont faire avancer les choses.
Et tout à fait, mais pour faire évoluer, c'est une génération, pour faire évoluer la machine qui se remet dans notre truc de fonctionnel, moi je crois qu'il y en a.
Vous pensez qu'il y a une génération de sacrifiés?
Ah oui. Ah oui, mais c'est plus que de dur.
Mais finalement, vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir?
Moi je suis optimiste, parce que le pessimisme fait partie de l'ignorance aussi. Hein.
C'est vrai.
Oui. Il ne faut pas être pessimiste. Non, ça c'est pas vrai. Non, mais je pense qu'il vaut mieux être optimiste, parce que il y a quand même un fruit la télé. La télé fait du mal, mais la télé quand même, elle a des passages qui sont très importants. Elle te donne le droit de ta bouffe et ta consommation de bouffe. Et ta consommation de bouffe, après ça te pose beaucoup de questions, hein. Si tu manges bien et si tu manges bon, et si tu manges mauvais. Et petit à petit, c'était étouffé dans le temps. Mais aujourd'hui, il y a des émissions qui sont complémentaires. Et aujourd'hui, de plus en plus, ça fait du chemin.
Vous croyez en l'être humain?
Ah oui, ah mais bien sûr.
Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup.
Ah oui, non mais... Ah oui.
Voilà Jean-Pierre Porte, donc... un humaniste épicurien, en quelque sorte, hein, on peut le dire, quelque chose comme ça. Bon, il y a quand même une façon de voir les choses qui est quand même extrêmement intéressante.
Voilà, merci à Jean-Pierre Porte, merci donc toujours à ces gens assez extraordinaires qu'on arrive à rencontrer dans les villages que nous visitons. ELO, ça vous dit quelque chose? Bah oui, Electric Light Orchestra, qui nous reprend du Beethoven. Ah tiens, c'est pas mal, hein. Écoutez plutôt ça. C'est du bon, tout bon, tout bon, tout bon. 7 minutes de rock extraordinaire avec Electric Light Orchestra, Roll Over Beethoven, donc voilà un morceau d'anthologie, il faut bien le dire, ça date déjà de vieux, hein. Mais c'est vrai qu'on savait faire de la musique à cette époque, et puis on savait jouer, surtout il y a quand même des super guitaristes. On en retrouvera un tout à l'heure aussi, Mark Knopfler, le guitariste chanteur de Dire Straits, qui fait une carrière solo. Donc là pour le moment, on retourne au marché de Vernou, et alors on va écouter une dame extrêmement intéressante, en fait, qui fait une activité, ça s'appelle le mot qui roule, en fait un camion, librairie. Ah, ça c'est pas mal comme truc. On retrouve donc le marché de Vernou avec ce fameux mot qui roule.
Marché de Vernou, et j'ai rencontré un truc intéressant, enfin, quelque chose qui me plaît, c'est un camion bibliothèque. Tu connais Eric, hein?
Oui, le mot qui roule.
Le mot qui roule. Eh ben, c'est
bibliobus.
Le mot qui roule, là.
Alors là, je suis devant un énorme camion, conduit par une toute petite dame. Et c'est marrant, ce truc, ça s'appelle le mot qui roule. M-O-K-I-R-O-U-L-E. Alors ça, c'est poilant. Donc, je la laisse déballer son chenille. Et puis, une fois qu'elle aura déballé son chenille, comme on dit chez nous en Suisse, je vais l'interviewer. Bonjour.
Bonjour, et vous m'interviewez pourquoi alors?
Alors, c'est Radio des Boutières.
Ah, bonjour, Radio des Boutières, on se connaît bien.
Alors, c'est pas de moi qu'il faut parler, c'est de vous, parce qu'en fait, c'est vous qui êtes intéressante. Donc, le mot qui roule, peut-être la dame a besoin de vous, là,
ça,
non?
Je vais peut-être m'occuper de la dame.
Après, on parle les deux. Alors, je rentre à la suite de ces dames dans le magasin ambulant.
Kili.
Ah, c'est sympa, il y a plein de bandes dessinées. J'ai vraiment l'impression, en les écoutant, ces dames, de me retrouver dans le film avec Meg Ryan, The Shop Round the Corner, où en fait une vraie libraire conseille les gens face à un supermarché.
Là, c'est un cargo qui transportait des robots, qui fait naufrage. Et donc, toutes les caisses de robots se retrouvent éclatées un petit peu sur les rochers, sauf une, où le robot est encore vivant, si on peut dire, en tout cas en état de marche. Il va sortir de sa caisse, se retrouver sur une île, et là, on est sur une histoire un peu à la Robinson Crusoe, cool. Mais c'est un robot qui va se retrouver...
celui-là.
Alors, vous avez fait votre choix?
Oui, efficace.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes arrivé, vous saviez absolument pas ce que vous alliez acheter, et grâce à cette dame, vous avez trouvé ce que vous vouliez.
Eh oui, elle connaît son métier.
C'est chouette, d'autant plus qu'elle fait ça dans un camion. Ouais. Je trouve ça assez fabuleux. On va l'interviewer dans quelques instants. Voilà, donc je continue à ma petite promenade. Écoutez, c'est vraiment... Je vous laisse vous installer. Non, je vous aide alors. Bon, alors, ça vous est venu comment, cette idée? Bah, c'est vraiment extraordinaire, je trouve ça. Pour moi, c'est la première fois que je vois un truc comme ça.
En fait, j'adore les livres, et puis j'adore les gens, discuter avec les gens, et parler de livres, notamment avec les gens. Et j'avais envie depuis longtemps d'ouvrir une librairie. Et comme moi j'habite par ici, j'avais envie qu'elle soit ici, parce que ça manquait. Et donc ouvrir une librairie, on va dire traditionnelle, fixe, dans un magasin, dans ce coin-là, c'était à peu près inenvisageable, parce que c'était clair qu'économiquement c'était impossible. Et puis ça permettait pas d'aller au plus près des gens. Et donc c'est venu assez naturellement l'idée que ce soit un commerce ambulant pour aller au plus près des gens et aller à un endroit où il y avait un manque de librairie, un besoin.
Alors en fait, vous avez d'abord passé votre permis poids lourd, je pense.
Je l'avais déjà.
Ah bon? Donc c'était un avantage. Et donc en fait, parce que cette passion des livres vous habite, et vous avez mis en place ce mot qui roule. Ah oui, donc en fait, vous pouvez aller par exemple un matin dans une commune, l'après-midi dans une autre.
Exactement, ouais. Je fais 12 communes en tout.
Ah oui, carrément, donc c'est pas n'importe quoi. Je vous laisse... Vous fréquentez ce magasin, Madame Ambulant, régulièrement, j'entends?
Ah oui, tout à fait, j'y viens toutes les semaines.
Vous trouvez J'aime ce que
beaucoup.
Vous voulez?
J'aime beaucoup. Il y a une variété de livres et en plus, elle est très sympathique.
Et qu'est-ce qui vous attire finalement, principalement? Le conseil?
Le conseil, la variété des choses qu'on peut y trouver et l'originalité de son projet, ça me plaît.
C'est vrai que c'est tout à fait original. Et puis l'accueil, finalement.
Tout à fait.
Merci.
Voilà le mot qui roule, donc une expérience tout à fait intéressante. Il m'a surpris, là. L'arrêt, boum, je me suis retrouvé. Je vais vous faire passer un morceau de musique que j'aime particulièrement. Remarquez, les musiques que je vous passe, c'est en général ce que j'aime. Hein. Donc voilà, je veux pas vous passer des trucs que j'aime pas. Genesis, ça vous dit quelque chose? Allez hop, on y va, on se les écoute. Coucou, tu démarres? Youhou, ça y est, c'est parti. Ils sont en public à Knebworth, en Angleterre. D'ailleurs, j'ai des enregistrements à vous passer aussi des Beach Boys dans le même coin. Je crois qu'ils font des super concerts là-bas. Faudrait que j'aille faire un tour, un de ces quatre. vous faire une émission en direct depuis Kennebworth. Genesis. C'était Genesis, bien sûr, avec Phil Collins, le chanteur, qui était batteur au départ. Et puis, quand Peter Gabriel est parti, ben, c'est lui qui a repris le flambeau. Et on connaît la carrière, bien sûr, de Phil Collins. Inutile de le présenter. Quant à nous, eh bien, nous repartons au marché de Vernou en Vivarais.
Boum, boum. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous vendez des tas de choses là. Alors, en fait, c'est bio, c'est pas bio, c'est raisonné, c'est quoi ?
Oui, alors c'est pas bio parce que j'ai pas le droit de dire que c'est bio, mais je n'utilise aucun produit de traitement ni aucun engrais chimique. Donc, c'est presque mieux que bio.
Oui, c'est ce que beaucoup de gens disent en fait, que finalement, ce label que vous êtes obligé de payer en fait quelque part.
Oui, oui. Alors maintenant, il y a des crédits d'impôt, donc c'est c'est plus une aide que quelque chose qui coûte, mais oui. Puis enfin moi c'est plus ma problématique, c'est plus que il y a des grosses surfaces comme Carrefour ou Auchan qui ont le droit d'avoir les mêmes labels que moi, qui travaillent des toutes petites surfaces, enfin qui ne travaillent pas pour le coup, parce que c'est un peu mon leitmotiv, c'est de ne pas travailler le sol. En fait, donc voilà.
Ça, vous ne creusez pas en fait.
Je ne retourne pas le sol.
Ouais, vous ne retournez pas le sol.
Pour cultiver la vie dans le sol, et en fait, j'essaie de prendre le plus soin possible du sol pour éviter l'érosion et de tuer tout ce qui est vers de terre et vie du sol, les micro-organismes du sol qui sont pas forcément visibles, mais qui sont très importants pour la culture.
Alors, vous utilisez des insectes aussi également, je crois.
Non, bah les insectes, oui, disons qu'ils sont. Je me sers de ceux qui sont présents en fait, et j'essaie de pas les tuer. Simplement plus que j'en apporte pas en fait. J'essaie d'avoir un biotope qui se fait naturellement en fait et qui.
Oui, trouver un équilibre en fait.
Qui permet d'avoir un équilibre et que tout le monde se porte bien. C'est-à-dire la terre, le sol va bien, les vers de terre vont bien, donc les légumes vont bien dans ce sol-là, quoi.
De toute façon, un légume bio n'a pas le même goût qu'un légume non bio, il faut dire les choses comme elles sont.
Ouais. Et un légume sur sol vivant, comme on appelle, a encore un autre goût, parce qu'il peut aller chercher des nutriments qu'il ne trouve pas forcément quand on travaille le sol et qu'on a une érosion assez forte du sol, qu'on peut avoir même en bio, en fait.
Donc, oui, parce qu'en bio, il y a des produits qui sont autorisés.
Il y a des produits, certains produits comme le cuivre ou le soufre qui sont déjà des fongicides, donc qui tuent les champignons. Et moi, je cultive les champignons parce qu'ils sont très importants pour ces cultures-là, parce qu'il y a une symbiose qui se crée entre le champignon et la plante, et qu'on ne peut pas avoir si on ne serait-ce que travaille un petit peu le sol, parce que ça tue assez vite les champignons. Et ces cuivres aussi, ou ces produits de traitement qui sont même bio, tuent aussi ces champignons, parce que c'est le but des fongicides, c'est de tuer les champignons.
Puis, de toute façon, il y a besoin de champignons pour l'organisme, le côlon en a besoin.
Oui, c'est ça. On est tous, on a je sais pas combien de centaines de millions de bactéries rien que dans la bouche ou dans les intestins. Donc en fait, c'est sûr que si on aseptise tout, ne serait-ce que même les sols, on a de la nourriture qui est aseptisée et forcément ça se passe pas très bien.
Et puis ça crée un problème au niveau des systèmes immunitaires, de toute façon, qui fonctionnent plus, ça c'est clair. Hein.
Ouais.
Alors dernière chose, parce que je vois que vous avez des clients, je vais vous foutre la paix. Vous n'êtes pas d'ici en fait au départ.
Non, je suis pas d'ici vraiment. Je suis de Rhône-Alpes, on va dire. Voilà, j'ai navigué pas mal en Rhône-Alpes.
En ville ?
Non, plutôt à la campagne.
Voilà, vous avez comme profession au départ ?
J'ai grandi à la campagne. J'ai changé un peu de profession. La dernière profession, c'était cordiste, donc travaux acrobatiques, qui n'a pas grand-chose à voir avec le maraîchage, mais voilà.
Donc là, je vous propose de retourner comme cordiste avec un salaire de 10 000 euros tous les mois. Vous y retournez ?
Ah non, pas du tout.
Comme chacun me dit ça. Je vous remercie, et puis bon marché. Merci à vous. Au revoir.
Voilà l'agriculture raisonnée, ne pas retourner la terre, faire vivre. Jean-Pierre Porte nous en a parlé. Et vous voyez que les jeunes, ils s'y mettent eux aussi. Tiens, Jules Léglise, ça vous dit quelque chose ?
Je suis un homme étranger. Qu'est-ce que c'est ?
Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'a inventé des dimanches, qui t'a faisait voyager. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, je n'étais pas assez riche pour t'amener à Corfou. Et toi non plus, tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfums légers, toujours les mêmes petits sourires qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. je n'ai pas changé. Je suis toujours l'apprenti baladeur qui décrivait des poèmes qui commençaient par je t'aimais, finissaient par aimer. Je n'ai pas changé. Je prends toujours le chemin qui me plaît. Un seul chemin sur la terre a réussi à me plaire, celui qu'ensemble on suivait. Et toi non plus tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfums légers, toujours les mêmes petits sourires qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours les mêmes parfums légers, toujours les mêmes petits sourires qui en dit long sans vraiment le dire.
Et oui, tu n'as pas changé, toi aussi. Alors, Julio Iglesias, tu n'as pas changé, c'est vrai. Alors, et puis, à 80 ans, tu as la même tête qu'à 20 ans. Bon, bref, c'est comme ça. Mais non, mais il chantait bien, ce mec-là, c'est vrai. Bon, puis les mélodies étaient agréables. Et puis, ben tiens, écoutez-moi ça. Voilà, vous avez tous reconnu l'intro de Je me marre, notre séquence rigolaude, comme on dit en Suisse. Ah oui, tiens, un jour je vous parle avec dans le patois du canton de Vaud, vous allez voir, c'est assez curieux. Alors donc, on dit pas rigolote, on dit rigolaude, là-bas, c'est comme ça, bon ben voilà. Fernand Reynaud, je suis qu'un pauvre paysan.
Bon, vous savez, je suis qu'un pauvre paysan, hein. Par exemple, je connais Marignan, je connais Marignan, ça a eu payé. Ça paye, oui, si on veut, après, si on veut, ça paye, mais ça paye quoi, ça paye... Ça paye la semence, quoi. Je suis qu'un pauvre paysan. Je fais un peu la vigne. Pour moi, j'ai rien comme vigne, j'ai peut-être allé 95, 98 hectares de vigne. J'ai du direct, j'ai du muscat, mais la vigne, ça paye pas. La vigne, ça paye pas. Ça a eu payé. Mais ça paye plus. Si on veut, ça paye. C'est-à-dire, ça paye, si on veut, ça paye. Mais quoi, ça paye quoi, ça paye. Ça paye le sulfate, quoi. L'autre jour, j'étais à la foire, là, je voulais acheter un autre acteur, je voulais l'acheter, enfin, j'ai dit, tiens, je vais y aller comme ça pour moi, quand un peu les affaires des autres, moi, les affaires des autres, à mon enfant. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Et avec ces nouveaux tracteurs, tu sais, des moissonneuses-lieuses canadiennes, c'est nouveau, fallait y penser. C'est des moissonneuses-lieuses qui charrient par derrière. Comme ça, on perd pas de temps. C'est, fallait y penser. Alors, vous avez votre moissonneuse qui moissonne, les balles de paille tombent d'un côté, ça ramasse le grain, par derrière, vous avez une charrue de 17 socles, et par derrière, ça ressème le blé que vous avez récolté. C'est pas tellement au point, quoi. Alors j'ai demandé le prix. Moi, je voulais pas lâcher, j'ai dit que je voulais lâcher. 90 millions anciens francs français. Vous voulez où j'aille les chercher, moi, 90 millions? Je suis qu'un pauvre paysan. Alors j'en ai pris un petit à côté, là, à 33 millions. Je fais un peu l'orge, je fais un peu la ouane. Je suis obligé de faire la ouane parce que je fais le chouane. Moi, que j'ai rien, quand je fais des chevaux, rien, j'ai des yeux, j'ai dans les 110, 115 chevaux, quoi. C'est suivant les années, si les juments, elles ont bien vêlé, alors à ce moment-là. Mais le cheval, ça paye pas. Ça a eu payé. Je préfère faire le cheval que de faire la vache. J'aime pas faire la vache. Marqué de père en fils, on fait la vache. Alors, j'ai 25 hectares de prairie, alors on continue à avoir les vaches. Il est peut-être dans les 75, 80 bêtes à compte, pas plus. Je suis qu'un pauvre paysan. Mais la vache, ça paye pas. Ça a eu payé. On est un jour à la maison, on est à la ferme, on ira à la chasse un petit jour. On mangera un peu de pain de seigle le matin, parce que je fais mon seigle, moi, pour faire mon pain. Moi, j'aime pas bien manger ce pain blanc, là, dès les boulangers, ils mettent des produits, c'est blanc, j'aime pas bien. Bon, moi, que j'ai rien, qu'est-ce que j'ai peut-être 5 ou 6 hectares de seigle, pas plus. Le matin, je coupe ma tranche de pain de seigle, là, avec moi du jambon et tout, du beurre, je fais moi. Manquer le seigle, ça paye pas. Seigle, ça paye pas. Ça n'a jamais payé. Ma femme fait la chèvre. Elle fait le cochon. Elle fait la volaille. Je vous vois venir, vous qui êtes de la ville. Vous êtes en train de vous dire, mais alors vous, les paysans, vous payez pas votre pain, vous payez pas votre vin, vous payez pas votre lait, vous payez pas votre beurre, vous payez pas votre fromage, vous payez pas vos volailles, vous payez pas votre viande, vous payez mais... Faut payer le sel.
Ça date de quelques années, Fernand Reynaud, dans Je suis qu'un pauvre paysan. C'était pas mal, hein. Moi j'aimais bien, c'était super. Bon, et voilà, ironie du sort, et puis bon, c'est terrible, hein. Et quand il arrivait sur scène, il fallait qu'il ait bu un petit peu de whisky, et quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme. Et d'ailleurs, il est mort au volant de sa voiture, alors bon, est-ce qu'il avait bu, j'en sais rien. Toujours est-il que c'était une disparition qui a marqué beaucoup de gens. Fernand Reynaud était très 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 aimé, et bah voilà. C'est comme ça, c'est de l'histoire ancienne. L'histoire ancienne aussi, c'est Mark Knopfler, excusez-moi, le chanteur-guitariste de Dire Straits, dans un morceau... Brother in Arms, quelque chose comme ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mark Knopfler, qui va démarrer dans quelques instants, le temps que ça chauffe. Ça le fait comme ça, vous savez. Huit minutes 21 de musique magique.
And always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms.
Voilà, de la toute bonne musique, Mark Knopfler, donc du groupe Dire Straits. Alors, vous savez que j'aime pas, j'ai pas pour habitude d'interviewer, je le fais jamais d'ailleurs en général, d'interviewer des personnages politiques, que ce soit des maires, des députés, des gens comme ça, bon bref, mais là j'ai fait une exception pour, d'abord parce qu'il est à la retraite, donc il est plus dangereux, et que ce type-là a fait vraiment des choses assez extraordinaires au niveau humain, entre autres pour les sourds et les malentendants. Alors j'avais vraiment envie de l'interviewer, et donc il s'agit de Jean-François Michel, qui était député, maire et tout, enfin il a fait plein de trucs, c'est un type, c'est encore un hyperactif quoi, dans
ce
mon genre.
Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'être humain et l'humaniste que vous êtes, ouais. Et toutes les opérations. Alors d'abord, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Le côté hyperactif chez vous m'intéresse beaucoup parce que vous avez dirigé énormément d'entreprises privées, publiques, et là vous avez montré que finalement, dans la vie, ça sert à rien de croire qu'on va rester toute sa vie dans la même entreprise, qu'il faut pas hésiter à se remettre en question. Ouais. C'est ça qui m'intéresse chez vous.
D'accord.
Donc voilà. Cette remise en question, finalement, qu'est-ce qui vous a amené à la faire? Qu'est-ce qui a fait que tout à coup vous changiez d'optique, passant d'un directeur d'hôpital à directeur d'une société à Vernoux, etc., etc.
Je dirais que c'est la nécessité de l'actualité sur le moment. Hein, j'avais une formation universitaire de droit et de Sciences Po, et j'ai réussi l'école de la santé. Donc on a commencé comme ça. Puis ensuite, le hasard de la vie m'a conduit ici en Ardèche à l'hôpital de Privas comme directeur. Et puis après, ça a été des successions simplement de hasards. Et en famille, avec mon épouse, les enfants, on s'est adapté tout simplement à ces hasards en disant on ne peut pas rester figé. On n'est pas propriétaire d'une mission ou d'un poste qu'on occupe à un moment donné. Quelquefois, l'actualité évolue, la vie évolue. Et il faut savoir répondre à cet appel de l'évolution. Sinon, on meurt. On meurt intellectuellement et puis on meurt quelque part un peu physiquement. Et puis ce qui me frappe aussi, c'est que lorsqu'on s'installe trop dans des fonctions que l'on croit permanentes, on entraîne avec soi la désespérance de l'entreprise ou de la collectivité dont on a la charge. Donc je dirais que par respect pour les missions qu'on vous confie, il ne faut pas non plus s'en sentir propriétaire. Sinon, on entraîne des amis, des personnes qui croient en vous, qui croient dans leur pays, dans une espèce d'échec collectif.
Voilà, donc Monsieur Michel, on était parti sur cette période de votre vie qui était assez intéressante, je pense, vraiment quelque chose d'assez formidable, votre action auprès des sourds et malentendants.
C'est en dirigeant, en étant nommé directeur de l'Institut National des Jeunes Sourds à Paris, que j'ai pu m'intéresser énormément aux jeunes sourds, et aux sourds en général. Lorsque j'ai été au cabinet de Jacques Barrot, il m'avait demandé de m'occuper des sourds et des aveugles. Donc j'avais commencé à m'en occuper, et puis ensuite il y a eu des changements politiques, et puis j'avais perdu un peu contact avec ce sujet. Et puis lorsque le poste de directeur de l'Institut National des Jeunes Sourds a été vacant...
Qui était une institution créée sous Louis XVI, m'avez-vous dit?
L'Institut National des Jeunes Sourds a été créé à peu près à cette époque, oui, sous le règne de Louis XVI, et puis ça a été maintenu au moment de la Révolution et puis pendant tout le 19e et début du 20e siècle. Bon, dans des bâtiments historiques qui étaient un ancien couvent. Et dans ce couvent, il y avait une belle roseraie. Et puis, il y avait un bel arbre, il y avait un vieux poirier. Et dis donc, on raconte que La Fontaine a écrit... ces fables en dessous de ce poirier, et en particulier le corbeau et le renard.
Oui, évidemment. C'est quand même intéressant. Alors, est-ce que c'est une fable? Est-ce que c'est historiquement vrai? On ne sait pas.
C'est pas tout à fait vérifié, mais enfin,
toujours pas facile,
on le racontait.
D'accord, ouais. Ok. Alors donc, effectivement, alors vous avez eu en plus une autre action qui me semble vraiment très intéressante, c'est au niveau du baccalauréat, vous avez souhaité que la langue des signes soit une langue comme l'anglais, le français, etc.
Mais je pense que ça s'imposait. Et puis dans certains pays voisins comme l'Allemagne ou aux États-Unis, les choses se passaient déjà de la sorte. Et nous, on était un peu en retard parce que on pensait que le français devait s'imposer comme une langue unique. Bon, et c'est Jacques Lang qui nous a aidés à autoriser et à organiser, parce qu'il faut les deux. La langue des signes au baccalauréat, et c'est vrai que ça a été un bon succès.
L'une des dernières questions que j'aimerais vous poser, c'est que finalement, vers nous aujourd'hui. Parce que vous avez été maire de Vernou, donc on ne va pas épigoler là-dessus, mais il y a des réactions qui se passent au niveau des maires. Vous avez des maires maintenant qui n'ont plus envie de continuer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes administratifs énormes. Et on se rend compte que finalement, si on arrivait à supprimer, je pense à une femme maire qui a parlé dernièrement à la télévision, qui a expliqué que pour avoir un médecin dans son village, elle a fait venir un médecin roumain, et que le conseil de l'ordre des médecins a mis 8 mois pour accepter quelque chose. Alors, et le président de l'ordre des médecins, qui a été évidemment confronté à cette question, a bafouillé, enfin il a répondu ces trucs et tout, il a dit, vous comprenez, c'est l'administration. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette administration ?
Ça a été capacité avec la décentralisation. Ici, à Vernou, c'est vrai que j'ai fait un certain nombre de choses, mon prédécesseur en avait fait aussi, et je vois bien que Mme Finiels, qui est la maire actuelle, fait beaucoup de choses dans Vernou. Bon, elle a créé une maison médicale, elle a fait un certain nombre de choses. Donc on peut. Le problème, moi je dirais qu'il y a deux problèmes. Je dirais que le premier problème, c'est la responsabilité. Il y a, depuis toutes ces nouvelles lois, une responsabilité juridique et pénale beaucoup plus importante qui peuvent s'abattre sur les maires. Vous avez des accidents sportifs, des feux d'artifice, des accidents provoqués par du personnel, et beaucoup de maires qui ont eu des condamnations pour des petites choses sont un peu effrayés par ce contexte. Permis de construire. Donc, vous voyez, donc ça fait beaucoup de choses. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les citoyens, d'une manière générale, sont pas très, bienveillants, même s'ils aiment bien leurs élus locaux, à l'égard des maires. Ils concentrent toutes les critiques, les frustrations, les déceptions, etc. Il faut savoir qu'il peut pas tout faire.
Non, mais c'est le dernier rempart, en fait,
aussi,
pour les gens.
Et puis, il y a le travail. Il y a le travail. C'est que pour être maire, il faut pratiquement y passer
temps.
Tout son temps. Donc les indemnités permettent pas, il faut le dire, pour des petites communes, d'y passer tout son temps. Il faut exercer une profession à côté. Ouais. Et puis beaucoup sont pas à la maison et tout. Donc il y a un moment où ils en ont un peu assez, tout en ayant voulu être élu et exercer le mandat avec passion. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte de ce point de vue, un peu délicat.
Voilà. Donc, c'est vrai que les maires réclament, on les écoute, on entend ça, une compréhension de la part du gouvernement, qui n'est pas le cas actuellement. Enfin, c'est, en tout cas, ce qu'ils disent, ils ont l'impression de ne pas être écoutés, et donc avoir du mal à faire leur boulot de maire, quoi.
Ben, il faut qu'il y ait d'abord une stabilité juridique. On multiplie les lois, les règlements, etc., les circulaires, qui sont plus ou moins appliqués, il faut quand même bien le dire, et qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Donc le maire se trouve quand même responsable de l'application d'une partie de ces textes sur le territoire. Bon, l'administration a pas tous les torts, mais en même temps, ils sont peut-être pas toujours armés pour répondre aux problèmes au quotidien. Alors, c'est pas un problème de quantité d'argent, de quantité de personnel. Il y a beaucoup de problèmes de compétences, de disponibilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important.
Pour finir, j'aimerais votre avis quand même sur la fracture dont tout le monde parle entre le rural et le citadin et la ville. Il y a quand même un problème là, à ce niveau-là.
Mais au niveau des élites, c'est clair. Je pense que la plupart des élites parisiennes qui gouvernent le pays, il faut bien le dire, ont le tort de pas aller se promener, ne serait-ce quelques jours pendant leurs vacances, pour voir comment ça se passe. Et c'est vrai que ce qu'on voit, ils ne se rendent pas compte qu'à la campagne, on a besoin d'une voiture, on a besoin de se déplacer, on a besoin de bouger, et que les frais de carburant et autres sont des frais importants. Alors qu'à Paris, évidemment, le prix du ticket de métro, souvent subventionné par les entreprises et la région, n'a pas la même portée dans le budget. Donc il devrait se mettre à la portée de ces maires. Et puis on peut pas un jour dire qu'il y a la taxe d'habitation, le jour d'après dire qu'elle y est plus. Les gens perdent un petit peu leur référence. Donc là il y a un problème qu'on sent très bien de manque de considération de ce qui se passe ici. Alors d'un autre côté, certes un manque d'incompréhension, mais on voit de plus en plus de personnes qui fuient les villes pour venir habiter d'abord dans des petites villes et puis à la campagne.
Ça c'est clair. En fait, dans toutes les émissions qu'on a fait déjà sur ce sujet dans les villages, quand on pose la question aux gens, je vous redonne 10 000 euros par mois pour retourner en ville, systématiquement, c'est non.
Ah ben personnellement, j'y retournerai pas. Je suis avec ma famille, mon épouse, on est très très bien ici. On n'a jamais vraiment quitté Vernou. On aime Vernou et je suis franchement très optimiste pour le développement du village. Tout concourt à ce que ça marche bien.
Ben donc, en plus, on va en parler dans cette émission, donc sur Radio des Boutières, qui passe dans 38 pays, je vous signale quand même au passage. Et donc, ce qui est quand même intéressant, c'est de dire que vraiment, vous aimez Vernou, les gens qui vivent à Vernou aiment Vernou, alors venez faire un tour à Vernou.
Ben voilà, et venez y habiter.
Voilà, ça sera le mot de la fin, monsieur Michel, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, donc monsieur Michel, Jean-François Michel aime Vernou, les Vernouzois aiment Vernou. En fait, en gros, tout le monde aime bien le village où il vit et c'est ça qui est important. L'important, c'est aussi d'en parler. Le savoir-faire, le faire savoir, ça a été toujours un peu mon leitmotiv dans les émissions radio que j'ai animées depuis 35 ans maintenant. Oh là là, ça me rajeunit pas tout ça. Allez, une dernière petite musique avant la fin de l'émission de Rediff. Je vous propose Yves Duteil. Il a un problème, un prurite lié à un instrument de musique. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Hein, ça le gratte.
J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Pardonnez-moi, c'est très étrange, ça me prend là où ça veut. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. J'aurais pu, c'est héréditaire, être officier d'état-major, archevêque ou vétérinaire, clerc de notaire ou chercheur d'or. Le hasard et la génétique en ont voulu tout autrement. J'ai mis les doigts dans la musique et c'est ainsi qu'à présent. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Dans l'industrie, l'électronique, le commerce et les assurances, j'avais des dons pour la pratique, oui mais côté référence. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça fait du bien dans les phalanges, mais ça fait pas très sérieux. Y'a rien à faire pour que ça change, faut se faire une raison. J'ai la guitare qui me démange, alors j'écris des chansons. J'ai appris à lire, à écrire, et je compte sur mes 10 doigts pour composer de doux délires, à partir de n'importe quoi. Ne croyez pas que je m'amuse, que je cours après les honneurs. Si je taquine un peu la muse, c'est pas pour les droits d'auteur. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais au bout d'une heure ou deux. Quand je me prends pour un artiste, ça donne un résultat miteux. Ça me rend profondément triste, et quand je suis malheureux. La guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage, ça s'arrange, mais c'est un cercle vicieux. Y'a rien à faire pour que ça change, faut se faire à cette idée. J'ai la guitare qui me démange, alors j'essaie de chanter. J'ai consulté un spécialiste pour me guérir, mais sans succès. Il m'a dit, si le mal persiste, essayez de prendre un cachet. Avant même que je le comprenne, j'étais déjà devenu chanteur. Et c'est pour ça que sur la scène, entre les deux projecteurs, j'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, et si c'est pas très sérieux. C'est la plus belle leçon de musique que j'ai reçue depuis toujours. C'est la meilleure thérapeutique quand j'ai des chagrins d'amour. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu.
Ça me soulage et ça s'arrange. Et quand je serai très vieux, à ma mort je veux qu'on m'installe avec ma guitare à la main. Si vous voyez ma pierre tombale qui gigote à la Toussaint, c'est la guitare qui me démange. Alors je gratte un petit peu dans les nuages avec les anges et tout là-haut dans les cieux. Pardonnez-moi si ça dérange, ça me prend là où ça veut. C'est la guitare qui me démange. Alors je gratte un petit peu, y'a rien à faire pour que ça change. Ici dans un jour ou deux, y'a la guitare qui vous démange. Alors c'était contagieux.
Eh oui, c'est vrai que c'est contagieux, la guitare qui démange. Et puis Yves Dutheil dans cette magnifique chanson, une sorte de tarentelle, comme il sait si bien les faire, Yves Dutheil. Donc et vous retrouvez Maple Leaf Rock, évidemment, qui signifie la fin de cette émission, une rediffusion. Voilà, que vous allez écouter durant cet été. Eh bien, toute l'équipe de Dans les pas du Dr Francus vous salue bien bas, vous tire le chapeau. Tiens, c'est pas mal, ça, tirer le chapeau. Et on vous dit la semaine prochaine. Hein. D'ici là, portez-vous bien et puis bonnes vacances, puisque vous êtes certainement en vacances. Et pour ceux qui bossent, bon boulot. Hein. Allez, n'hésitez pas à nous écouter, ça donne du pep. Bye bye, semaine prochaine.